Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Romain en compagnie de trois jeunes femmes, à commencer par Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Alexandra, donc vous occupez du Café Délices, hein, vous en êtes la responsable.
Oui, je suis devenue gérante depuis le 1er octobre de cette année 2020.
Ensuite, nous avons Christine aussi pour le Café des Voyageurs. On s'était déjà vu il y a à peu près un an et demi environ.
Oui, bonjour. Oui, c'était au début de 2020. C'était à l'occasion de la Palmarita Coco Blue qui est venue de Barcelone. On s'est entretenu à ce moment-là. Ouais.
Et puis, nous avons Céline aussi pour le Café des Alpes à Châtillon, en Diois.
Oui, bonjour. Et j'ai repris le Café des Alpes le 26 août de cette année. Voilà, le PMU, le café du village.
J'avais oublié de préciser, donc le Café des Voyageurs à Saint-Romain pour Christine et Alexandra pour le Café Délices à Die. Alors, toutes les trois, vous avez quelque chose de commun, c'est que vous vous lancez dans une affaire d'exploitation commerciale dans le domaine de l'hôtellerie principalement d'ailleurs, ou dans la restauration. Comment appréhendez-vous justement ce nouveau départ ?
Oui, pour ma part, en fait, j'ai repris le Café Délices donc depuis octobre, mais j'ai toujours travaillé au Café Délices puisque j'étais avec l'ancien gérant associé, M. Hervé Cassard. Donc en fait, c'est une reprise d'activité et donc une continuité du bar-restaurant. On garde les mêmes idées, les mêmes envies et on continue.
Et je passe à Christine avec le Café des Voyageurs.
C'est une situation similaire parce que ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe du café depuis son ouverture en 2018. Mais c'est depuis 2020 que je suis lancée en tant que salariée dans l'association. Donc c'est moi qui envoie comme le visage du Café des Voyageurs. Après, comme c'est associatif, je ne suis pas toute seule. Hein. On a une jolie équipe de bénévoles et on se soutient. L'ambiance a été vraiment sympathique cette année.
Et donc je passe à Céline.
Alors moi j'ai repris donc le Café des Alpes. Ultérieurement il y avait un restaurant. J'ai pas gardé l'activité parce que j'ai repris uniquement le café. J'ai pour projet de faire une petite restauration et c'est surtout un lieu de vie dans lequel on se rencontre, on se mélange les anciens. Le matin, j'ai les mamans qui déposent les enfants à l'école. C'est un vrai lieu d'accueil de vie où on peut se proposer, échanger des services les uns pour les autres.
Qu'est-ce qui vous a amené chacune dans la profession que vous exercez ?
Me concernant, moi j'aime les gens, du coup, à la base je suis thérapeute, je travaille sur les émotions des gens et effectivement le bar, le café, le barman, les propriétaires des lieux, les serveurs, ils ont un côté thérapeute quand même, à l'écoute des gens, ils ont beaucoup d'empathie, de sympathie en général, donc c'est une bonne découverte pour la palette émotionnelle du monde, en tout cas me concernant. Et j'essaye de lier mon métier de thérapeute et le service de la restauration, dans lequel j'ai baigné aussi pas mal d'années.
Christine, toi, tu as voyagé beaucoup à travers le monde pour nourrir ta cuisine d'ailleurs. Quelle est cette transition qui t'a amené à ouvrir le Café des Voyageurs ?
On va dire que c'est une évolution de la cuisine, ce que je fais depuis longtemps, mais là je me suis professionnalisée depuis 5 ans, on va dire. Donc le café, c'était une opportunité parce qu'on avait la possibilité d'utiliser le local. Et après, ça a permis d'installer le service traiteur qu'on fait. Que j'ai fait depuis plusieurs années. Donc c'était l'aboutissement de plusieurs pistes de projets. d'installer l'association là et de développer le la cuisine avec les ingrédients locaux et bio.
Alexandra, pareil, c'est ta formation professionnelle qui t'a amenée dans cette activité ?
Alors, en ce qui concerne ma formation, je ne viens pas du tout des métiers de l'hôtellerie ou de la restauration. J'ai plutôt fait une formation au niveau de la fac, en aménagement du territoire. Et en même temps que cette formation, j'allais justement aider mon oncle et ma tante, donc Hervé et Nadine, les anciens propriétaires du Café des Dix, à faire des foires ou à les aider à leur boulangerie. Et j'ai toujours eu ce double côté, c'est-à-dire bien aimer ce que je faisais à l'école, à la fac, pour en faire mon métier, et à côté, aller travailler avec eux sur de la restauration. Et au fur et à mesure de mon avancement dans l'âge, j'ai plutôt opté pour faire de la restauration que pour faire ma branche, parce que je ne me sentais pas, par rapport à ma branche, rester enfermée toute la journée dans un bureau devant un ordinateur.
La particularité, c'est que vous êtes toutes trois installées dans le milieu rural, hein, on peut dire, dans des villages ou petites villes de campagne. Je suppose que vous avez vécu dans des villes avant. C'était pour vous un intérêt de vous installer dans des endroits plus calmes, je dirais ?
Pour ma part, du coup, Alexandra, en fait, moi, je viens déjà d'un milieu rural. J'ai été vraiment en ville que pour les études. Donc, en fait, pour moi, c'était presque normal de retourner parce que, en fait, la ville, j'ai beaucoup de mal à m'y intégrer en étant vraiment dans un lieu rural puisque je viens du Var et du centre Var, donc c'est-à-dire vraiment en petite campagne. Donc, pour moi, c'était tout naturel de continuer à vivre dans ce genre de lieu.
J'ai forcément beaucoup voyagé parce que je viens de Nouvelle-Zélande. Et j'ai vécu plusieurs années sur Paris et Marseille avant d'arriver dans Diwa. Ce qui était un choix de vie pour élever les enfants, pour chercher quelque chose, c'est la première fois que je vis en milieu rural. Et voilà, et c'est vrai que le projet professionnel et le projet de vie se sont cumulés avec ce projet de cuisine et de café.
Et moi, me concernant, c'est un petit peu comme Christine. Je suis arrivée dans le Diwa il y a une quinzaine d'années pour élever mes enfants dans d'autres conditions, près de la nature, éviter le stress, la cohue, le métro, puisque je viens de Paris. Et je trouvais que c'était bien plus confortable pour les enfants et moi. J'ai eu la chance... De pouvoir venir ici, élever mes enfants en pleine nature, en fait, simplement. Et pour rien au monde, je repartirai à Paris, d'ailleurs.
Ensuite, votre exploitation, où vous êtes installées chacune, en même temps, pour Alexandra, tu disais reprendre le relais d'un lieu existant. Christine et Céline, c'est pareil un peu, ou vous avez dû tout réinventer, je pense plus pour Christine, peut-être.
Non, c'était plus une évolution qu'une réinvention. Puisque ça faisait que 2 ans, on avait l'ancienne équipe et maintenant on a changé des choses, mais ça, non, ça reste une suite logique, je pense.
Il y a une nécessité, d'ailleurs, il y a une nécessité de ces lieux dans les villages où vous êtes installés, de toute manière.
Oui, complètement, parce que moi, il y a encore 6 mois, j'ignorais que j'allais être tenancière d'un café dans un petit village. J'étais portée et je suis passionnée par mon métier de thérapeute. Et en fait, c'est les gens qui sont venus qui m'ont dit « Céline, reprends le café ». Et je me suis laissée bercer et prendre au jeu parce que les gens n'avaient plus de lieu à Châtillon où ils étaient accueillis. Et donc, je trouve que c'est nécessaire et vital pour un village d'avoir un lieu où tout le monde peut se rencontrer, se poser, échanger. J'ai remarqué que les gens, il y a une unité qui se crée. Il y a vraiment tout le monde. Les petits, les grands, les âgés, les touristes, il y a tout le monde. Il y a vraiment la palette... humaine, elle est vraiment là entièrement et chacun trouve sa place, ce qui est, je trouve, assez plaisant. En tout cas, moi, j'adore regarder les gens qui sont chez moi parce que je trouve qu'ils sont posés et chacun trouve sa place. Et ça, c'est un vrai cadeau, en fait, pour moi.
Il y a eu l'exode rural après la guerre de 39-45, ce qui a, à mon avis, entraîné la fermeture de beaucoup de petits cafés dans les petits hameaux ou villages. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour dû justement à cet exode urbain ? Le
café de voyageurs était fermé depuis presque 30 ans. Anciennement, c'était le café de village et ça servait vraiment un rôle local. Après, maintenant que c'est réouvert, sa résonance, c'est pas autant dans le village. Je pense aussi parce qu'on fait une programmation ponctuelle et on n'est pas ouvert tous les jours comme une bistrot de ville. Il n'y a pas de tout, avec 200 habitants, il n'y a pas de tout assez de monde pour soutenir une commerce au plein temps. Et du coup, maintenant, ça résonne vraiment au niveau du Diwa. Quand on fait des spectacles, les gens viennent de tout le Diwa. Je pense que ça sera difficile à Saint-Romand d'avoir. Ce sera chouette, mais c'est quand même difficile de soutenir une entreprise qui est ouverte toute la semaine, toute la journée quand même.
Céline, toi, tu as repris en fait un café déjà existant aussi.
Il est existant, oui. L'ancien propriétaire avait fait un restaurant. Moi, j'ai pas repris parce que j'ai acheté que le fonds de commerce du bar. Et voilà, je vais faire un petit snack, mais je vais réinventer, malheureusement, avec le Covid, tous les projets qu'on avait mis en place sont tombés à l'eau. Mais j'ai envie de faire de ce lieu un accueil pour les conférences. Je travaille en parallèle avec certaines associations, entre autres pour les femmes. Donc on avait mis en place... Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en place pour l'avenir, au niveau culturel. Les concerts, moi je les laisse à Christine, parce que c'est là où je vais aller me détendre quand je serai fermée. Donc je lui laisse. Et voilà, je ferai peut-être un concert ou deux par an comme ça, mais ce sera peut-être plus des conférences... des soirées jeux aussi, parce qu'il y a une grande demande et je trouve que le jeu, ça unit vraiment les gens. On a toujours le sourire et donc c'est important.
Est-ce que vous vous êtes sentie soutenue dans cette installation d'activités chacune ?
Oui. Oui, je dirais oui, parce que c'était pas forcément évident justement d'ouvrir quelque chose qui était fermé pour si longtemps, mais il y a une bonne partie de gens de village qui nous soutient, qui vient, qui fréquente les soirées et tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a ils tolèrent aussi, des fois ça peut être un peu bruyant, ou enfin on est conscient qu'il peut y avoir des choses qui dérangent. Donc non, on apprécie le soutien quand même.
Oui, il est vrai que les communes en général ont des restrictions pour les ouvertures et les fermetures des bars et des restaurants, mais comme ils savent qu'en général ça apporte du monde, les gens, une activité, ça fait bouger, ils laissent plutôt courir et ne sont pas trop exigeants à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'il faut rester, bien sûr, dans des cas un peu particuliers. Mais il est vrai que moi, en ce qui concerne dit, on n'a jamais eu de soucis vraiment avec que ce soit la commune, la police municipale ou autre pour les événements qu'on a fait. Au contraire, ils sont plutôt porteurs de ce genre de projet. Ils connaissent l'importance du lien social que ça peut apporter et que ça fait toujours du bien à une commune de pouvoir respirer, de profiter, de faire des soirées et autres. Donc c'est vrai que les communes sont assez, en tout cas dans le Diwa, pour ce que j'en connais, sont assez tolérantes et plutôt sympathiques à ce niveau-là.
Oui, également. Moi, je dirais la même chose que les filles. On est quand même soutenues et pas dérangées. On nous laisse travailler et faire ce qu'on a à faire sans qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Voilà, il y a une belle humanité avec les communes qui se passe. Mon activité principale, donc je suis... cafetier, donc je fais des cappuccinos maison, hein, des vrais bons cappuccinos, des chocolats maison, avec un bon café goûteux. Donc il y a le produit quand même, qui est là. Je fais pas que du bio parce que tout le monde n'est pas demandeur et quand on vit dans des en milieu rural comme ça, on est obligé de s'adapter à toute la population. Et puis, comme je le disais auparavant, je souhaiterais organiser des soirées pour unir les gens et créer des dynamiques de vie, surtout en hiver, parce que les gens sont demandeurs et puis ça crée du lien. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui de créer du lien et d'être là les uns pour les autres, peu importe. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se tienne la main tous.
Par rapport à l'activité que tu as pu avoir pour le peu de période d'ouverture entre deux couches de confinement, concrètement, ça a donné quoi ?
Ça a donné que j'ai été surprise. Il y a eu un bel engouement pour le Café des Alpes. Les gens étaient là. Ils ont joué le jeu. Je pense qu'ils m'ont testé. Voilà, tous les gens étaient là tout le Diwa, des gens que j'ignorais d'ailleurs aussi de Châtillon, des gens qui sont sortis de leur maison et qui n'allaient plus du tout dans les cafés. Donc j'ai vraiment une palette complète et qui me demande de faire des choses et ils ont envie de créer des choses. Donc on en discute. Donc là, étant donné que j'ai ouvert que 2 mois, j'étais sur la mise en place, un roulement. Je commençais à prendre ma vitesse de croisière et puis... voilà, on a tous fermé et donc bon, les projets ne sont que repoussés.
Et Christine, même question donc. La question était de savoir quelle activité battait son plein en quelque sorte au Café des Voyageurs avant cette histoire de confinement.
L'activité au Café des Voyageurs, ça va sur 2 axes. Il y a le parti concert, café-concert, avec des ouvertures 1 ou 2 fois par semaine, peut-être un peu plus en été. Et là, c'est vraiment un spectacle, c'est un lieu de rencontre le soir, et avec petite restauration et bar, buvette en bio. Et l'autre axe de l'activité, c'est le parti traiteur. Donc, on utilise la cuisine de café pour livrer des plats aux différents lieux de spectacle, de conférence. C'est beaucoup dans le milieu associatif. Donc voilà, on a vraiment deux axes de l'activité.
Voilà, et puis ensuite Alexandra avec Di comme carrefour du Diwa, il y a beaucoup de convergence au Café des Lys.
Oui, le Café des Lys est devenu maintenant un lieu assez connu, on va dire, à Di. On a nous la double casquette, donc à la fois bar et restauration, où sur les temps de restauration c'est beaucoup plus calme, on essaye de sortir une cuisine familiale, un peu plus poussée que de la plus familiale, avec des produits bio. On travaille beaucoup avec des producteurs locaux, plus la Carline qui est quand même notre lieu de base, qui est juste à côté en plus par rapport au viaduc. Et puis le côté bar, où ça nous permet à la fois d'accueillir des gens pour boire des coups, les apéros, mais aussi en été et même en hiver faire quelques concerts, qui attirent pas mal de gens et qui permettent, comme je disais déjà tout à l'heure, pas mal de liens sociaux. Et qui permet aussi de faire se rencontrer des populations qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Puisque d'avoir la double casquette bar-restaurant, pendant la restauration, on ne scène pas et on n'empêche pas les gens de venir boire des coups. Donc vous pouvez avoir autant, en période normale, on va dire, et pas en période de confinement ou de fermeture particulière, des gens accoudés au comptoir en train de boire son petit rouge, en train de boire sa petite bière, et des gens qui papotent et qui mangent à côté un petit plat fait sur la matinée. Donc ça permet d'attirer un maximum de gens, en tout cas on l'espère, que les gens soient contents de venir pour boire un coup ou pour manger, et bien sûr comme lieu de rencontre aussi pour le matin avec les petits cafés, parce que j'ai pas mal de personnes qu'on voit essentiellement au café, qui viennent se regrouper entre copains, copines, boivent leur petit café, et puis qu'après qu'ils vont travailler. Donc voilà.
Et puis est arrivé le Covid-19 et ça a bouleversé un peu toutes ces activités. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler pour vous ? Par exemple, pour le Café des Lys, vous proposez l'alternative du repas à emporter. Donc, comment ça s'est décidé, ça, justement ?
Alors justement, on a connu donc 2 périodes de confinement. On va dire celle du mois de mars et celle de maintenant. Pour celle du mois de mars, nous avions fait le choix de ne pas ouvrir à emporter, se disant que les gens ne seraient peut-être pas intéressés, que le fait d'être à la maison, tout le monde pouvait cuisiner. Est arrivé l'été avec quand même un bon boom au niveau de la population, avec beaucoup de monde, un été qu'on a eu, d'ailleurs jamais vu, autant de fréquentation, explosif, les gens avaient besoin de se retrouver et de profiter. Et le deuxième confinement. Et sur le deuxième confinement, je me suis posée avec mon équipe. Bon, il est sûr que c'est pas possible de travailler en équipe et qu'il vaut mieux que ce soit le gérant qui gère pour éviter les frais. Et de se dire, ben, est-ce que quand même on n'aurait pas de la demande au niveau de la vente à emporter? Donc on s'est entre guillemets un peu tous posé la question et on a posé la question autour de nous. Et les gens avaient l'air d'être intéressés. Donc j'ai décidé d'ouvrir et de faire de la vente à emporter. Alors j'ai fait beaucoup, c'est plus simple puisque du coup je suis toute seule à m'en occuper quasiment. On fait des ventes à emporter que le midi, puisque bien sûr le soir il y a confinement et qu'on ferme à 18h, plutôt que de faire de la vente à emporter. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Les gens savent qu'ils peuvent venir manger, ils commandent, ils passent, et puis les livraisons sont faites comme ça en direct. Et puis c'est beaucoup justement des gens qui travaillent dans les bureaux, on va dire, si on peut appeler ça des bureaux, qui viennent manger, qui ça leur permet de faire une petite pause, de se dégourdir les jambes, de venir chercher leur plat, de rencontrer d'autres personnes, que d'être toujours enfermé dans son bureau et de repartir bosser. Du coup, la vente à emporter, ça fonctionne sur 10, en tout cas pour nous. Et c'est plutôt sympa parce que même pour moi qui viens de reprendre, ça me permet de garder le contact aussi avec les clients.
Céline, toi, tu ne proposes que des boissons dans ton commerce.
Oh, oui, essentiellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis... mes heures d'ouverture, c'est 6h30 le matin. Donc, c'est quand même... j'ai une palette horaire très, très large cet été. Donc, étant donné que j'ai ouvert le 26 août... Je faisais 6h30 du matin jusqu'à 23h. Donc ça fait des plages horaires très conséquentes. Je voulais faire de la petite restauration, mais étant toute seule, jusqu'à présent je suis toute seule, je me suis pas mise à la restauration maintenant, mais j'espère si on ouvre un jour, très vite, parce qu'il faut qu'on travaille très vite, parce que socialement il faut qu'on travaille. Ça va se mettre en place avec une équipe qui va venir m'aider. Donc je pense que j'aurai deux ou trois personnes avec moi cet été pour avoir une petite restauration, parce que j'ai quand même j'ai une grande terrasse. Voilà, donc on proposera une petite restauration dans les semaines à venir ou mois à venir, je sais pas trop.
À 6h30, quel type de personnes trouve-t-on dans un café?
Alors, on a tous les ouvriers de la commune, les artisans du coin, qui sont d'ailleurs très contents. Les chasseurs aussi, on a toute la palette, c'est ce que j'expliquais. J'ai vraiment, moi, accès à tout le monde, vraiment tout le monde. Voilà. C'est ce qui est riche, je trouve.
Christine, toi, est-ce que tu as une réflexion aussi sur une possibilité de pouvoir exercer ton activité malgré le Covid?
Nous avons fait le choix de ne pas développer la vente à emporter parce que ça ne répondait pas à une clientèle qu'on avait. Enfin, ça aurait demandé de créer toute une nouvelle clientèle, tandis qu'on n'est pas en ville, on n'est pas à Die, on est vraiment sur un lieu de passage. Donc ça ne semblait pas logique à ce niveau-là. Et puis par la suite, c'est vrai qu'à la fin de l'an dernier, on attendait les annonces pour savoir si on... pouvait ouvrir en janvier ou quand ça allait venir, mais on avait déjà décidé d'attendre le mois d'avril, ce qui semble que maintenant ça va être au minimum ça pour la réouverture. C'est que c'était assez frustrant, enfin la fermeture, le fait d'être fermé c'est assez frustrant, mais aussi les restrictions de circulation, de masques à l'intérieur. C'était pas très joyeux à vivre en tant que personne gérant le lieu ou responsable. Enfin voilà, c'était un passage assez difficile à devoir contrôler les gens, fliquer comment ils se comportaient à l'intérieur. Et c'était pas quelque chose que, enfin, moi et le reste de l'équipe, on n'a pas vraiment très bien vécu cette idée de restreindre les gens sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc en fait, on va attendre l'ouverture jusqu'à ce que c'est vraiment souple et on peut. Ouais.
À un moment donné, il me semblait aussi qu'il y avait des documents à remplir en entrant dans le café pour inscrire son identité et ses contacts. C'était presque un rôle de police pour l'établissement, en quelque sorte. Et beaucoup n'ont pas voulu s'induire dans cette direction. Il y a de ça aussi.
En fait, ce qui était le plus difficile, c'était de devoir aller voir les gens et leur, entre guillemets, imposer des choses. En fait, on est gérant d'un lieu, certes, on est responsable, mais c'est difficile. On n'est pas des gendarmes, on n'est pas des policiers qui sont là et qui disent « vous devez suivre la loi ». Les gens, après, sont quand même assez responsables, normalement, moi, c'est ce qu'on se dit, pour décider s'ils veulent aller dans le lieu, de faire ou pas les choses. Mais malheureusement, on était quand même obligés de faire cette... Le coup des papiers, là, vraiment, c'était difficile parce qu'en fait, les gens rentraient. Avant qu'ils rentrent, tu leur disais, ben voilà, on a des papiers à remplir. Si vous voulez manger, entre guillemets, ça voulait dire, vous devez le remplir. Bon, comme beaucoup de monde doit s'en douter, bien sûr, c'est difficile de refuser un client parce qu'il vous dit, bon, ben, je verrai si je le remplis. Alors, on l'assoit, il mange et puis il le remplissait en fonction de leur... de leurs choix et de leurs envies. C'était très difficile de faire vraiment les gendarmes à ce niveau-là et de leur imposer. Donc, on l'a fait, c'est-à-dire on a fait les démarches qu'on nous a demandées, mais après, c'était vraiment au bon vouloir des clients. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Les gens étaient quand même contents de pouvoir venir et du coup de s'asseoir à table. Et en fait, les trois quarts, voire 75% des gens qui rentraient le faisaient. Pas spécialement parce qu'ils... Ils étaient obligés, mais parce qu'ils se disaient, mais si c'est la seule solution aussi pour que les lieux continuent à rester ouverts, eh ben pourquoi pas faire quelques petits efforts à ce niveau-là. Donc la population dans l'ensemble a quand même été plutôt tolérante et ne nous a jamais vraiment rentré dedans par rapport à toutes ces obligations qu'on leur demandait de faire, puisque c'était nous les responsables et qu'il fallait le faire.
Ouais, moi je suis d'accord avec Alexandra. Moi j'ai eu aucun problème en fait de comportement. Les gens ont joué le jeu. Par rapport au masque, j'ai pas fait la guerre en fait. C'était complètement naturel parce que je pense que la priorité c'est que les gens puissent se réunir et voilà, ils ont opté pour mettre le masque et, pour pouvoir garder ce lien social tout simplement. Voilà, mais j'ai jamais joué à la gendarme moi. Ça s'est fait naturellement les. J'ai eu des bons... Les Châtillonnais ont été super sympas. Ils ont bien coopéré, vraiment.
Pendant le premier confinement, où toute activité avait cessé, quelles étaient vos pensées à ce moment-là par rapport à cette activité que vous aviez hormis Céline, toi, tu ne travaillais pas encore à ce moment-là, mais Christine et Alexandra.
Pour ma part, c'était pas aussi simple. C'était pas simple comme situation parce que malheureusement, moi, j'avais pas encore repris. Puisque du coup, le changement de gérant s'est fait qu'au mois de octobre, 1er octobre. Le 30 septembre, on signait les papiers et je suis rentrée en tant que gérante le 1er octobre. Donc, on avait déjà depuis un moment cette perspective de changer de gérant. Mais avec toutes ces conditions, c'est vrai que ça fait cogiter et ça te dit, mais est-ce que vraiment tu as envie de te lancer dans cette branche qui, pour l'instant, est en arrêt, quoi? Bon, après, on prend sur soi, on se dit, mais ça ne va pas durer éternellement, il faut bien continuer. Et puis, quand on veut faire quelque chose, eh ben, on va jusqu'au bout. Donc, pour moi, ça a été dur à ce niveau-là, dur de ne pas travailler, parce qu'en fait, en restauration, comme dans les bars, comme dans les cafetiers, on travaille beaucoup. Donc, un arrêt brutal d'activité, c'est toujours difficile. On passe de 10 heures à 12 heures par jour à plus rien. Du coup, tu trouves le temps long à la maison. On n'avait pas le droit de sortir, en plus. Une heure par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Donc quand tu habites dans un petit appart et que d'habitude tu sors, tu vois du monde aussi. Parce que pour ma part, je suis pour l'instant encore toute seule. Donc je ne voyais plus personne. Donc c'était plus ça le côté difficile du confinement. Après, pour la branche, eh ben, on se dit bien que ça va reprendre, que ça va continuer, que les gens ont besoin de toute façon. Ce n'est pas des métiers qui, entre guillemets, comme ils appellent, commerce inutile, non nécessaire. Bah, c'est nécessaire quand même pour le lien social et pour tout le reste. Donc du coup, on fait confiance et puis on sait que la clientèle sera là dès que ça reprendra.
Oui, j'ai des jours de flottement où je me demande où ça va, tout ça, mais quand même, ça va le faire. Éventuellement, ils vont quand même nous lâcher, on pourra y ouvrir et dans la joie. Mais c'est vrai qu'on l'attend, là.
Oui, on attend. Mais ouais, ils ne peuvent pas supprimer comme ça le lien social, quoi, même si c'est un but à terme. Mais ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain parce que les gens ne sont pas préparés Et ça va être une catastrophe humaine, quoi. S'il n'y a plus de lien, on va tous mourir, ou se taper dessus, ou se bouffer les uns avec les autres. Quoi, c'est vrai, c'est ça, on devient fou, en fait. C'est essentiel, le café, le restaurant, c'est comme se laver, faire l'amour, ou... voilà, c'est vrai.
En temps de Covid, est-ce que vous êtes senti soutenu par cette absence d'activité, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau d'un revenu de compensation?
Oui, un petit peu, mais est-ce qu'on va pas le payer quelque part, ça, après? Donc, moi, je voulais rien prendre, je voulais aucune aide. Et mes amis autour, ils m'ont dit, Céline, t'es dingue. Il faut vraiment que tu prennes les aides, mais j'avais pas du tout envie de rentrer dans leur... Puis j'ai pas eu le choix, quelque part, j'ai résisté, puis au dernier moment, mais j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce système-là, parce que on peut pas empêcher les gens de travailler comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est juste pas possible, quoi. Mais pourtant, c'est ce qu'on vit, il faut avoir la foi, je crois. Il faut croiser les doigts, il faut essayer de se soutenir. Les uns avec les autres, vraiment. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que on veut tous la même chose, mais on n'est pas unis. On veut tous aller au même endroit, mais on arrive à se diviser toujours et à créer des micro-groupes et à toujours à parler les uns sur les autres. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'unir aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire, mais aller vraiment dans la même direction et puis acter avec un autre regard, avec un regard bienveillant sur les autres. Parce que sinon, on fera que se diviser et il faut qu'on arrête de se diviser, en fait.
Nous avons eu les aides, c'est modeste, c'est le minimum, mais c'est vrai que ça fera la différence entre de ne pas pouvoir y ouvrir, en fait. C'est vrai que sans cette aide d'État, on n'aurait pas pu tenir. On a quand même eu 6 ou 7 mois de fermeture depuis un an. Et voilà, ce serait, parce que les frais continuent, les choses dont on est redevable, ça continue. Ça aurait fait trop de trous dans la trésorerie pour pouvoir se rattraper après. Donc c'est vrai que... Voilà, si la santé, c'est la priorité pour l'instant, ça me semble normal qu'on aide ces entreprises juste à survivre, quoi. Et puis, bon, pareil pour le chômage, juste pour essayer de contrôler ce qui peut arriver après. Ouais.
Il faut savoir que pour les entreprises et pour beaucoup de petites entreprises dans le monde rural, où on n'est pas en grande ville et donc on n'a pas un potentiel de clients énorme, en fait, une année complète permet de dégager quelque chose. Dès qu'on est fermé 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en plus quand on est fermé pas de notre plein gré, c'est d'autant plus difficile, puisque on sait très bien que dans les zones comme le Diwa, le monde rural en général, en fait, a une grosse saison qui est de plus en plus courte. Tu as des petites périodes où ça permet de renflouer, et la trésorerie, après, en hiver, est difficile à tenir. Donc à partir du moment où on nous ferme sur des périodes, notamment je pense au premier confinement, où on a raté avril et les ponts de mai, qui permettent de relancer l'activité après la saison hivernale, qui est quand même plutôt basse et qui nous fait plonger la trésorerie. Ces 2 mois-là, par exemple, ont été perdus pour 2020. Donc c'est difficile. Les aides sont là, et tant mieux, je dirais. Mais c'est vrai qu'on ne demande qu'une chose, c'est surtout de réouvrir. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour quémander des sous à l'État qui nous aide parce qu'il nous ferme. Ce qu'on veut, c'est travailler, tout simplement.
Et justement, Céline l'abordait à l'instant, c'était par rapport à cette fédération des populations, mais que ça restait toujours des petits clans à droite à gauche. Est-ce que, au niveau des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration ou cafetier du Diwa, est-ce que vous entretenez, ou est-ce que vous avez un certain contact entre vous de manière à discuter, ou c'est de trouver des solutions ou de fédérer des solutions?
Je sors de mon lit depuis 2 mois, parce que, ayant travaillé toute seule pendant, on va dire, 3-4 mois, la création du Café des Alpes et l'ouverture que j'ai faite toute seule. Là, je sors un petit peu la tête de l'eau. Donc, on commence à en parler. voilà, je commence à accueillir, moi, le fait d'essayer de créer quelque chose pour un avenir proche et vraiment s'unir et créer des choses ensemble, parce que c'est ce qu'il faut.
Je pensais à ces circuits qui sont organisés par des artistes, par exemple, qui permettent à des touristes de cheminer à travers des villages pour aller voir des expositions. Est-ce qu'il y a cette notion d'un parcours aussi qui serait à créer au sein de l'hôtellerie, de la restauration, du Diwa par exemple? Est-ce qu'il existe peut-être ces sites? Il y a l'office de tourisme qui en quelque sorte vous réfère quand même, non?
Oui, puis il y a des promotions, enfin comme le chemin de la Clairette et tout ça, où on essayait d'orienter les visiteurs, les touristes à travers des chemins de différents villages et tout ça. Après, oui, je pense, enfin, par conscience, je pense que chaque personne essaie de pas trop marcher sur le pied des autres. Si on sait qu'il y a un cancer ou quelque chose, on va pas se mettre en concurrence, au moins que, enfin, en plein été, quand on peut soutenir plusieurs concerts pour une soirée. Mais sinon, je pense qu'il y a une sorte de considération les uns et les autres.
Pour les liens entre, par exemple, les restaurateurs, nous, à Die, on s'est pris un petit trip, on s'est créé un petit groupe où on se donne des nouvelles, entre guillemets, qui ouvre, comment on ouvre, est-ce que tout va bien, est-ce que vous êtes en travaux, qu'on a appelé les cinglés restaurateurs, histoire de donner un petit côté peps, un petit côté rigolo. Et du coup, ça nous permet de nous tenir en lien. Si on a besoin d'un petit conseil ou d'une petite aide, c'est-à-dire il manque quelque chose, bah, tu demandes à leur restaurateur qui est ouvert. On connaît plus ou moins les horaires d'ouverture des uns, donc on peut orienter aussi en fonction. Si les gens demandent, ah ben, vous n'avez plus rien, est-ce qu'on peut aller manger ou est-ce qu'on peut là éventuellement aller chercher un truc à remporter quelque part, ben, comme on sait plus ou moins comment on est ouvert sur 10, qui est ouvert, qui ne l'est pas, eh ben, on oriente les gens comme ça aussi. On a gardé ce petit côté lien où de temps en temps on se donne des nouvelles pour savoir si tout va bien, tout simplement.
La concertation, donc, c'est possible hein, entre vous, je pense. Et puis, il y a aussi cet aspect de l'avenir. Comment vous le voyez, vous, cet avenir?
Ben, l'avenir, c'est un peu comme la Bretagne, c'est les quatre saisons dans la même journée. C'est ouais, les quatre saisons de Vivaldi, mais dans la même journée, on ne sait pas trop. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment... Et puis, je pense que les gens, ils vont se rendre compte que le lien social, il est extrêmement vital, en fait. Donc, ça va... Je pense que ça va déboucher sur d'autres mouvements, d'autres manières de travailler ensemble, de partager, de soutenir tous ces lieux de vie. Je pense qu'on va les transformer. Et voilà, bon, après, c'est ce qui se fait déjà pas mal dans le Diwa depuis toujours. Donc, on est un petit peu pas précurseur ni avant-gardiste, c'est qu'on a choisi de vivre différemment ici. Et on vit dans notre temps, on va dire, aujourd'hui, nous. Donc, on n'est pas trop surpris de ce qui se passe parce qu'on a déjà. Fait un pacte il y a 10-15 ans pour un changement de vie radical. Moi, je viens de Paris. Donc, je pense que le monde, il va être obligé de fonctionner comme ça. De vraiment, quoi, je... Voilà, quoi, on s'est compris, je crois, d'être les uns avec les autres, vraiment, mais véritablement. Et véritablement être ensemble, quoi.
Bah, je reste positive. Enfin, voilà, le temps que ça va prendre pour se rétablir, revenir normal, enfin, je pense qu'à un moment, ça va devenir un mauvais passe, tout ça. Et puis, c'est vrai que cette année, on a vraiment ouvert le côté associatif au Café des Voyageurs. Donc, on a plein de projets que les gens veulent porter pour utiliser. C'est quand même un bel espace et une opportunité. Donc, enfin, voilà, c'est vrai que enfin, plutôt optimistique sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter là-dedans. Ouais.
On attend bien sûr tous, je pense, l'après-Covid avec impatience, qu'on puisse réouvrir normalement, pouvoir profiter de, à la fois de travailler, mais aussi de tout le reste, c'est-à-dire autant nous ouvrir pour travailler, mais aussi pour pouvoir aller dans les lieux différents qui sont fermés encore à l'heure actuelle, tout ce qui est bien sûr théâtre, cinéma, qui attendent aussi avec impatience parce qu'ils n'ont pas de perspective, hein, comme nous. Tout simplement, en fait. Et puis, c'est ce qui manque le plus. On a tous qu'une hâte, c'est d'ouvrir. On a foi en l'avenir, mais par contre, il nous faudrait juste un petit clin d'œil, un petit « Oh, vous êtes là, vous inquiétez pas, bientôt, ça reviendra. » Parce que souvent, dans les différentes conférences qu'on entend, ils parlent toujours de la même chose, de la maladie, mais il n'y a pas de perspective en tant que telle. Bon, on ne demande pas qu'ils nous disent « On va réouvrir à telle date. » Mais juste se dire « Tout va revenir, entre guillemets, à la normale, mais dans la bonne normale. » Avec un chemin de vie un peu différent de ce qu'on a, parce qu'on se rend compte aussi que tout ne fonctionne pas comme il faut. Et c'est ce que ça a prouvé, cette crise. Mais tout simplement, pouvoir revivre tous ensemble, avoir le droit de faire ce qu'on avait le droit avant, c'est-à-dire tout simplement se retrouver, boire des coups ensemble, se faire des câlins, parce que ça manque à beaucoup de personnes, et puis continuer de vivre avec tout ce qui va avec.
Dernière petite info, peut-être, vous avez un site internet, une visibilité sur internet pour connaître votre activité, Céline par exemple.
Moi je suis en train de le créer, là je vais créer un compte Facebook parce que bon, c'est les réseaux sociaux, mais bon ça fonctionne bien. C'est un bel outil quand on l'utilise à bon escient. Et voilà, donc je suis en train de le créer là actuellement. Voilà.
Qui s'intitulera Le Café des Alpes.
Oui, j'ai pas changé en fait, j'ai pas voulu changer de nom. J'ai voulu laisser cette identité, le PMU, pour les gens d'antan. Voilà, donc j'ai laissé le Café des Alpes pour les habitants de Châtillon, simplement.
Christine.
Nous avons une page Facebook et on a un site internet www.cafeterrid.cafevoyageur.fr.
Pour le Café des Lys, il y a bien sûr un site, mais qui est très peu utilisé parce que je ne l'agrémente pas vraiment. Par contre, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook. Le Café des Lys, c'est une page où vous verrez, on vous met tous les menus des jours d'ouverture et de temps en temps, une petite folie, une petite vidéo où la cuisinière, et moi je filme, s'éclate dans la cuisine. Et voilà.
Eh bien, Christine, Alexandra et Céline, je vous remercie toutes les trois de votre temps passé avec nous sur RDIWA. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Merci à toi, Yves.
Merci, Yves.
Merci. Au revoir. Au revoir.